Vous écoutez votre grand journal de soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Peut-on vraiment se passer de chimie de synthèse dans l'agriculture ? Mes invités autour de la table, Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Christian Huyg, directeur scientifique agriculture de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thierry Couet, vice-président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Vous présidez d'ailleurs la commission environnement de la FNSEA. Bonsoir Thierry Couet.
Bonsoir.
Vous êtes du coup vous-même agriculteur.
Et du Morbihan aussi.
Et du Morbihan aussi, ouais. Éleveur, céréalier.
Éleveur de porc dans le Morbihan, voilà, et céréalier également.
Très bien.
Les céréales servent à nourrir mes porcs.
Et nous verrons ce soir si on peut se passer de chimie dans l'agriculture. Nous nous inspirons évidemment de cette série noire pour le groupe Bayer-Monsanto, mais nous allons quitter un peu la question économique, quoique. Mais d'abord, Benjamin Muller qui est en studio avec
nous. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Bonsoir Benjamin. Comme chaque jour, on voit avec vous comment les médias traitent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, un sujet qui monte. Doit-on en finir avec les réseaux sociaux ?
Ah oui, depuis quelques jours, Twitter, Instagram, Snapchat, mais surtout Facebook sont pointés du doigt. BFM TV par exemple.
Facebook est dans la tourmente, Frédéric, accusé d'être un danger pour la démocratie, le réseau social de Mark Zuckerberg est sous la menace d'un démantèlement.
Facebook démantelé, c'est dire si l'affaire est grave et si la rencontre entre son patron Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron a évidemment fait le tour du monde.
The French president Emmanuel Macron met with Facebook's chief executive Mark Zuckerberg.
Voilà CNN qui parle du président Macron. Peut-il aider à sauver Facebook ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot. Wendy Bouchard hier matin sur Europe 1.
On va d'abord débattre avec vous, chers amis, des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Sont-ils en train de nous rendre fous ? La haine s'y répand, le mépris de l'autre et des lois, des défis stupides, le harcèlement se diffuse.
Voilà, ça fait beaucoup. Et si vous n'êtes pas vous sur Facebook et ne comprenez rien à tout ça, un exemple de situation ordinaire avec l'humoriste de Quotidien, Thomas VDB.
Mais hélas, aujourd'hui, Facebook est aussi devenu le temple de la haine. C'est le seul endroit quand même où c'est vrai, tu postes que tu es en train de préparer une ratatouille. En trois commentaires, la discussion se transforme en débat sur la GPA. Ça s'emballe assez vite, c'est vrai. Ah ben, j'étais en train de couper une courgette, moi, à la base. Bon, c'est vrai.
Voilà, sans oublier les insultes qui vont avec à propos de la courgette. L'autre truc qui commence à agacer dans les réseaux sociaux, c'est notre capacité à nous de nous mettre en scène partout et tout le temps. L'écrivain Brett Easton Ellis sur France Inter.
Je crois que tout est lié à ce que j'appelle cette notion de culte de la likabilité, de l'aimabilité. Il y a tellement de gens qui veulent être liké. Les réseaux sociaux vous forcent à devenir quelqu'un que vous n'êtes peut-être pas, une sorte d'acteur.
Et alors, pour être très concret, un exemple avec Instagram.
Sur Instagram, tout le monde veut être liké et ça vous transforme en une sorte de portrait idéalisé de vous-même qui n'est pas factuel, qui n'est pas authentique. Et c'est ça, je pense, qui nous stresse tant et nous rend malheureux.
Voilà, on est tous stressés et malheureux à cause des réseaux sociaux qui ne nous font plus savoir qui on est vraiment, ce qui est un vrai problème. Alors rares sont les politiques qui critiquent frontalement Facebook, car tous, ou presque, l'utilisent. Le commissaire Brossa s'y est néanmoins essayé sur le site de l'AFP.
Vous utilisez Facebook, vous utilisez Google.
Ah, il est très présent sur Facebook.
Bah, vous pourriez et aussi ne pas collaborer avec ces géants de la
planète. Eh oui, tu critiques Facebook, mais tu es sur Facebook, alors comment te défendre ? Je précise que face à lui, c'est le journaliste du Figaro, Yves Tréhard.
Bah, vous pourriez et aussi ne pas collaborer avec ces géants de la planète.
Regardez, des tas d'éditorialistes du Figaro qui dénoncent le fonctionnement de la sécurité sociale utilisent la sécurité sociale. Donc si vous voulez qu'on joue à ce petit jeu-là, ce sera contradiction pour contradiction.
Et voilà, t'as joué, t'as perdu. Sans doute cette interview a-t-elle déchaîné quelques trolls d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le mot de la fin pour Brett Easton Ellis à propos des insultes sur Twitter.
Les réseaux sociaux ne sont pas réels. Twitter n'est pas réel. J'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un peut être offensé par un tweet. C'est vraiment prendre les choses trop au sérieux. Je ne pense pas que la vie devrait être prise trop au sérieux.
Voilà, la vie n'est pas si sérieuse.
Vous réagissez sur le hashtag Europe 1 ?
Oui, mais tranquillement.
Merci
avec
beaucoup.
Des mots d'amour.
Merci Benjamin et à demain, 19h27.
Europe 1.
Notre agriculture, l'agriculture peut-elle se passer de chimie ? De chimie de synthèse peut-être pour être précis dans ce débat. Le débat est lancé jusqu'à 20h avec Joël Labbé, Christian Huyg et Thierry Couet. À tout de suite sur Europe 1.
Vos invités Mathieu Béliard jusqu'à 20h, Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, Christian Huyg, directeur scientifique agriculture de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et Thierry Couet, vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Vous présidez la commission environnement de la FNSEA et vous êtes agriculteur dans le Morbihan.
Alors pour tout vous dire, je le racontais, c'était pas prévu, mais je posais des questions hors antenne à Joël Labbé, puisque c'est à Joël Labbé qu'on doit la loi qui interdit l'utilisation de pesticides chimiques dans l'espace public des communes et pour les particuliers depuis le 1er janvier dernier. Et je faisais mes courses le week-end dernier, j'avais une photo où je voyais des boîtes de Roundup dans les étals, on va pas citer le supermarché. En fait, tout est réglo, il y a juste plus de glyphosate dedans, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc, ils ont gardé l'emballage et ils ont mis un produit qui est un acide dedans, simplement.
Donc c'est la force de cette marque, en l'occurrence le Roundup de Monsanto, que de continuer à exister, même quand il n'y a plus la molécule dedans, Christian Huyghe.
Exactement. En fait, c'est une marque commerciale qui a une image extrêmement forte à l'échelle mondiale, un peu moins forte en France, mais qui a une identité. Et donc, ils ont gardé la marque et les molécules dedans ont été changées, ont été modifiées.
Alors, la question que nous posons ce soir, pour quitter mes petits problèmes de désherbage maison, est-ce qu'on peut se passer dans l'agriculture de chimie de synthèse ? Thierry Coué, aujourd'hui, on nous dit beaucoup que les agriculteurs ont enclenché une démarche de changement. Ça veut dire qu'à terme, vous imaginez vous passer de pesticides, d'herbicides de synthèse ?
Mais à terme, en tout cas, c'est l'objectif que l'on s'est fixé. On a fait ce qu'on appelle le contrat de solution, où on a réuni 40 intervenants, 40 la recherche, les groupes de développement, plein d'acteurs en fait autour du monde agricole. Et oui, c'est un objectif. Après, c'est le pas de temps. Hein, pour n'importe quel domaine, on peut toujours arrêter la chimie. C'est pas le sujet. Après, les matières que l'on utilise pour faire un casque de radio, comme j'en ai un devant moi, ou vos lunettes, ou etc. Si on peut faire avec des outils, on va dire plus naturels,
mais bien sûr, il y a la question du plastique. Ça, c'est une vraie question écologique. Sauf que le casque de radio, je vais pas le manger. Non plus,
mais nous, on ne mange pas les produits qu'on utilise non plus pour soigner les plantes. Donc, il faut quand même bien différencier aussi ce qui est de soigner les plantes et de sélectionner et de lutter contre les ravageurs, parce que les ravageurs existeront toujours sur les cultures. Et donc, comment on fait pour les maîtriser ? C'est la grande question.
Joël Labbé ?
Oui, c'est une vraie question.
Il faut soigner les plantes ?
Les ravageurs existeront toujours et ils ont toujours existé. Le tout, c'est la question de l'équilibre. Parce que lorsque l'on va, à coup de chimie, éliminer toute la biodiversité, parce que c'est le cas, les prédateurs des ravageurs, ils ne sont plus là non plus. C'est tout l'équilibre environnemental qui est mis à mal. Et dans le cadre des réflexions qui sont menées sur les nouvelles formes d'agriculture, c'est réhabiliter la biodiversité dans tout cela. Et ça veut dire changer les pratiques agricoles. Il n'y aura pas de molécules de substitution de toute façon. C'est tout un ensemble qui doit être revu. Et puis revu de fond en comble, parce que c'est l'ensemble du système agricole et alimentaire à l'échelle mondiale qui est à revoir. Parce qu'avec ce système, on sait maintenant qu'on va dans le mur pour des questions de climat, pour des questions de biodiversité également.
Et d'ailleurs, là, je reviens dans le débat. On ne peut pas, nous, en tant que médias, journalistes, s'alarmer il y a une semaine de la disparition de la biodiversité. Là, ces ravageurs dont on parle, c'est aussi de la biodiversité.
Alors, c'est de la biodiversité. Simplement, si vous récoltez zéro, cette biodiversité, vous voyez bien qu'elle n'est pas forcément très positive. En tout cas, il faut trouver un moyen de lutter et de garder les produits agricoles. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il faut se nourrir. Oui, il faut se nourrir. Mais on ne se nourrit pas de rien. Hein, si dans votre assiette, vous n'avez rien, forcément, au bout d'un moment, ça devient
un vrai problème. On dirait que vous me connaissez. Christian Huyghe.
La question que vous posez, peut-on se passer de pesticides ? En fait, la question, elle est pas vraiment celle-là. On le dit, il y a des bioagresseurs. Donc la question, c'est comment on protège autrement ? C'est-à-dire, c'est comment on arrive à faire en sorte que les écosystèmes et une culture, une production, c'est un écosystème. Et le premier des services rendus par l'écosystème, c'est la production. Comment on fait en sorte que ces écosystèmes aient un état d'équilibre suffisant pour qu'il n'y ait pas d'épidémie ? Et quand on disait tout à l'heure, il y a un effondrement de la biodiversité, et c'est une réalité. Et pourtant, il y a toujours autant de pucerons chez M. Coué. Pourquoi ? En fait, c'est simplement parce que les chaînes de régulation se sont effondrées, et que donc vous avez une chaîne de régulation, donc vous avez toujours, normalement, dans un écosystème, une bestiole qui va en manger une autre. Et si tout le système s'effondre, en fait, c'est toujours la bestiole primaire qui va rester là, et donc le puceron. Et donc, en fait, c'est comment on arrive à reconstituer des modes de protection qui vont permettre d'avoir des écosystèmes stables. Et en fait, ce que l'on découvre, et ça, c'est en fait un peu un inconvénient qu'a généré le monde de la chimie, on a cru qu'une culture saine, c'est une culture sur laquelle il n'y avait rien. Et effectivement, un pesticide, le mot pesticide, ça veut dire que ça tue quelque chose. Et en fait, c'est comment on arrive à imaginer que l'écosystème que l'on cultive, pour être productif, il a lui-même ses propres régulations. C'est ce qui est au cœur de la vision de l'agroécologie. L'agroécologie, ça consiste simplement à dire je construis un écosystème, une parcelle, avec une diversité que je choisis, avec un environnement que je choisis, pour qu'il y ait suffisamment de régulation autour de ça. Ça, c'est le premier point, et c'est ce qui permet de réfléchir aux insectes. La question des champignons, on découvre aujourd'hui que ce qu'il y a autour d'une plante saine, c'est pas qu'il n'y a rien dessus, c'est qu'il y a un microbiote, et que c'est ce microbiote qui assure la protection. Comment on arrive à l'organiser de façon à maximiser cette régulation-là? Et donc, c'est comment on arrive à penser, et en imaginant aussi des leviers que l'on n'a pas aujourd'hui, comment on arrive à penser et à construire des écosystèmes qui vont permettre d'avoir cette protection. Et ça suppose aussi que ça mobilise la production, mais ça mobilise aussi toute la chaîne de valeur derrière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que l'agriculteur doive tout changer, mais pour produire exactement la même chose dans les mêmes conditions, avec les mêmes dates et les mêmes volumes. Et donc, de fait, c'était un peu au cœur des États-Unis de l'alimentation. C'est comment l'ensemble de l'agriculture et de l'alimentation se transforme pour répondre à ces besoins de durabilité, aux augmentations des besoins alimentaires mondiaux, mais aussi au changement climatique, qui est un gigantesque défi. Et une partie de ce défi est liée aussi aux activités agricoles. Hein. Vous prenez l'agriculture française, c'est 2% du PIB, c'est 19% des gaz à effet de serre. Voilà. Donc on a une responsabilité. Donc comment on arrive aussi à réduire ces émissions? On a un gigantesque défi autour de la biodiversité. Ils sont relativement liés, parce qu'ils sont liés en fait à l'évolution des systèmes de production agricole. Et puis on a une problématique autour de la transition alimentaire. Et donc, comment on arrive à imaginer les équilibres alimentaires de demain qui doivent à la fois avoir une évolution en France et une cohérence à l'échelle mondiale. Et donc, c'est cet ensemble-là qui doit bouger. C'est certainement... Les agriculteurs ont leur part de responsabilité dans cette transition, hein, et tout le monde, mais aussi le consommateur. Dans les choix d'alimentation que fait le consommateur, il y a des incidences sur l'ensemble des modes de protection autour de ça.
19h37.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1. Le débat est lancé, la discussion est lancée avec l'idée aussi d'avancer vers des solutions avec mes invités ce soir, Joël Labbé, Christian Huyghe et Thierry Couet. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Belliaré, vos invités jusqu'à 20h. Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRA, Institut national de recherche agronomique. Thierry Couet, vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Vous présidez la commission environnement de la FNSEA et vous êtes agriculteur dans le Morbihan. Et Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan.
On remet les acteurs de ce dossier autour de la table, si j'ose dire, des agriculteurs, des scientifiques, du politique aussi d'ailleurs, avec une responsabilité par rapport aux électeurs. C'est très compliqué. Beaucoup de gens vont vous dire, moi je ne veux plus manger de produits qui ont été traités avec des pesticides. Il faut aussi dire à vos électeurs, à vos clients Thierry Couet, que si on fait sans cette chimie de synthèse, ça va coûter plus cher.
Vous avez parlé de la responsabilité des politiques. Ça, c'est capital. Il est temps que les politiques se remettent véritablement à prendre leur propre responsabilité sans être sous influence. La question des lobbies fait débat actuellement et fait beaucoup l'actualité. Je me rends compte depuis que je suis sénateur dans tous les domaines, notamment dans le domaine agricole et alimentaire, le poids énorme du lobbying et comment on a du mal à avancer parce qu'il y a ce poids-là. Moi, je rêve, parce que je suis utopiste, ça ne va pas tarder à ce qu'on puisse être à même de voter en notre âme et conscience, nous les uns et les autres des politiques, et non pas sous influence. On voit trop de choses qu'on n'arrive pas à faire avancer alors que tout le monde attend des choses évidentes. Un exemple frappant, on avait interdit, dans le cadre de la loi agriculture-alimentation, la fabrication de pesticides interdits en France et en Europe par nos sociétés françaises. Eh bien, ça a été remis sur le tapis et finalement, ça a été de nouveau accordé, d'abord jusqu'en 2022, puis 2025, parce que, eh bien, il y a de l'économie derrière, il y a de l'emploi. C'est insensé de penser comme ça. Et on sait que derrière, il y avait des influences. Et ces influences-là, elles n'ont plus lieu d'exister. Il faut véritablement...
Mais ce que vous dites, quand vous dites que ça va pas tarder, on va pouvoir faire changer des choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est un aveu d'échec du politique par rapport à l'économique.
Ah, quand on entend dire ouais, vous avez beau parler, vous ne faites pas le poids face à la pression économique et financière, la réponse que je peux donner et qu'on peut donner, c'est si on fait le poids, si on est à même de trouver des majorités. Et il est nécessaire maintenant de trouver des majorités pour défendre le bien commun, l'intérêt général, l'intérêt des générations futures. Et pour cela, il faut véritablement qu'on se libère de ce poids-là. Et je le dis maintenant avec force parce qu'on est en situation d'urgence. On a les solutions, on a les scientifiques à même d'apporter les réponses, des réponses scientifiques. De toute façon, on est en situation d'urgence, c'est absolument irrémédiable. Donc il va falloir qu'on revoie de fond en comble les pratiques. La question, il ne s'agit pas de revenir au passé, mais les systèmes de polyculture élevage sur les territoires. La relocalisation de l'alimentation, la mondialisation de l'alimentation, c'est abominable à tout point de vue. Pour nos consommateurs, alors, pour les pays du Sud. Et ça, il va bien falloir le remettre en question. Donc, il y a la logique française, mais la logique européenne qui est d'actualité, qui n'est pas suffisamment débattue, et la logique planétaire. À mon sens, l'alimentation doit être sortie du grand marché mondial.
Joël Labbé disait, on a les solutions. Je vous entendais, Thierry Coué, dire non.
Mais non, on n'a pas toutes les solutions. Si on les avait... Évidemment, par exemple, un pied de vigne, il faut 20 ans pour... Enfin, je parle au directeur de l'INRA. Il faut plus de 20 ans pour obtenir quelque chose qui permette d'être résistant, par exemple, au mildiou, au fléau, etc. Enfin, j'en sais rien. Il vous le dira tout mieux que moi. Mais on est dans la recherche avec, en plus, et le changement climatique, nous, on est aux premières loges. On le voit bien. Par exemple, avec l'arrivée du frelon asiatique, on voit bien que les colonies d'abeilles se font manger par le frelon asiatique. Et on a l'apparition notamment de Xylella fastidiosa. Alors c'est pour les oliviers.
Voilà. Sur les oliviers.
Et donc l'arrivée de nouveaux prédateurs, quand ils n'ont pas justement leurs prédateurs à eux, nous mettent en péril. Et du coup, si on n'a pas les solutions...
Certains vous disent j'ai la pratique, la solution.
Alors
Christian Huyck, puisqu'on parlait de viticulture à l'instant, j'avais Michael qui était viticulteur en Gironde, de mémoire, au 39-21, il y a un peu plus d'une heure, qui lui disait c'est possible, on est capable de changer nos pratiques, de passer en bio, en biodynamie.
Alors, puisque Thierry Coué le disait, en fait, c'est des choses qui prennent du temps, mais comme ça prend du temps, il faut commencer tout de suite.
Voilà.
Donc, des cépages résistants au mildiou et l'odium. Le mildiou et l'odium, c'est pour ça qu'on utilise énormément de fongicides. C'est le gros paquet de la consommation. On a mis sur le marché on a inscrit au catalogue national au début janvier 2018 des cépages qui permettent de faire moins 87% de produits phyto. Et donc, ça veut dire aussi que l'agriculteur est beaucoup moins exposé et que son environnement est beaucoup moins exposé. Et donc, il faut réussir à imaginer comment on utilise des cépages comme ça, et puis il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre, dans la transition viticole. Et comme la transition viticole, elle, naturellement, elle prend du temps. On renouvelle le vignoble français en moyenne en 30 ans. Donc il faut commencer très vite. Et donc, là, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui qu'il ne faut pas commencer à les mettre en œuvre. Et donc, c'est un peu ça l'engagement que tout le monde prend. Et puis, c'est aussi de réussir à réfléchir, à identifier les choses que l'on ne connaît pas aujourd'hui. On ne peut pas dire on connaît tout. On ne connaît pas tout. On parlait tout à l'heure du microbiote. Il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était. Donc, on ouvre des choses, on découvre ce qu'est l'écologie chimique, pourquoi les insectes vont à un endroit et pas ailleurs. Donc on doit continuer à explorer ça et c'est une obligation de recherche. C'est pour ça qu'il y a un programme prioritaire de recherche qui a été annoncé par le président de la République au Salon de l'agriculture qui s'appelle justement « Cultiver et protéger autrement ». Ce n'est pas de dire zéro pesticide, c'est comment on protège autrement. Et effectivement, on se situe dans un contexte où on n'utilise pas. On doit produire ces connaissances-là, mais on doit aussi travailler avec les opérateurs, les agriculteurs, le conseil, les coopératives, sur comment on organise ces transitions-là. Et puis, clairement, si on veut, et il y aura cette évolution, elle est, comme disait M. Labbé, elle est inéluctable. Au regard de la génération actuelle et au regard de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des générations futures. Donc, comment on organise cette transition-là? On va l'organiser en produisant des choses différentes. Et donc, ça suppose que les industries agroalimentaires, par exemple, s'adaptent aussi à cette offre-là. Or, elles se sont adaptées à une logique d'économie d'échelle. Il faut les produire des choses en grand volume, le plus standardisé possible. Et donc, elles vont aussi devoir assurer cette transition-là pour générer de la valeur ajoutée. On va avoir, quand on a, par exemple, en arboriculture, une protection un peu moins forte à grands coups de phyto, eh ben, on a des fruits qui sont plus hétérogènes. Comment on va travailler ces fruits-là? Comment on fait évoluer les référentiels que l'on a? Aujourd'hui, le référentiel que vous avez pour, par exemple, acheter des pommes et la commerce des pommes, c'est des pommes qui sont très grosses, sans défaut. Si vous avez une protection contre un carpocap, vous avez une piqûre, vous avez une pomme légèrement déformée. Et aujourd'hui, elle ne passe pas dans les standards. Il faudrait que dans la norme que l'on a, donc la représentation que l'on se fait, tout compte fait, cette pomme-là soit considérée comme plus vertueuse qu'une grosse pomme totalement rouge et parfaite.
19h47. Vous restez bien sur Europe 1. Peut-on se passer de chimie, de synthèse dans l'agriculture? Débat jusqu'à 20h. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités. Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et Thierry Couet, vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole, président de cette commission environnement de la FNSEA, agriculteur dans le Morbihan.
Et précisément, Thierry Couet, je voulais revenir sur la question soulevée par Joël Labbé, question presque démocratique. Au-delà de la question des lobbies dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, y compris ici, la volonté de vos clients, finalement, en bout de chaîne, de manger de meilleure qualité, sans trop se poser de questions sur les produits qu'on trouverait dans notre alimentation. On a enchaîné Ecophyto 1, Ecophyto 2, qui devait réduire l'utilisation de pesticides et herbicides, et il n'en est rien. C'est-à-dire que, je reprends ce que disait Christian Huyghe, on était censé avancer, ça n'avance pas des masses.
Si, ça a avancé, mais Christian Huyghe pourrait vous le dire mieux que moi. Mais le problème, c'est que derrière, on a enlevé énormément de produits qui nous permettaient de... Et du coup, par exemple, la suppression des néonicotinoïdes...
Heureusement qu'on l'a faite, celle-là.
Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'était un traitement de semences. Et donc, le traitement de semences n'était pas pris dans le compteur. Alors, c'est très technique, mais le NEDUS qui sert à mesurer... voilà. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supprime les néos qui permettaient de lutter contre le puceron? Eh bien, il a fallu derrière traiter le puceron, parce qu'il était là. Donc voilà, comment trouver le juste équilibre? Mais c'est tout ça. Et tout ça, c'est se fait dans le temps. Après, sur comment éduquer le consommateur. Alors là, je peux vous dire que c'est un travail de fond. Hein, nous, on a beaucoup travaillé à la FNSEA là-dessus, et moi qui suis en Bretagne, sur le manger français. Et donc, on a été voir justement la restauration collective et beaucoup d'acteurs aujourd'hui où il n'est question que de quoi? Que de prix. Hein, lorsque aujourd'hui dans la restauration collective, on mange pour 1,60€, et ben dites-moi de matières premières. Comment aujourd'hui, ça n'est plus possible. Alors, dans un monde où on supprime... voilà.
Je vais poser précisément la question à Christian Huyghe. Moins de pesticides, d'herbicides, voire plus du tout de chimie de synthèse. Est-ce que forcément, ça veut dire des prix plus élevés? J'entends par là la main-d'œuvre ou des rendements moindres?
Alors, deux points. Je veux d'abord revenir sur ce que vous disiez. Ecophyto, ça n'a servi à rien. En fait, ça n'a pas eu d'impact, mais ça a eu beaucoup de résultats. Parce que dans un des dispositifs d'Ecophyto, c'était les 3000 fermes qui étaient suivies. Et sur ces 3000 fermes, on fait en moyenne, depuis que ça a commencé, donc depuis 2010, entre 2010 et 2016, c'est moins 17% de phyto utilisés et moins 43% en arboriculture, par exemple. Donc, c'est quand même pas une paille. Donc, ça veut dire que ces exploitations, qui étaient plutôt les exploitations les plus volontaires, sont capables de se transformer. Elles n'ont strictement rien perdu en performance économique. Et c'est en fait la capture de ce qui se faisait de mieux, le fait de les accompagner, donc de faire baisser leur aversion au risque qui permet de faire cette modification-là. Donc ça, c'est un point. Mais effectivement, si vous allez complètement avec une protection très, très différente, ça va demander plus de travail et de fait, ça va potentiellement augmenter le coût. L'action qui va se poser après, c'est quelle est l'intervention publique que vous avez là-dedans. Est-ce que vous pouvez envisager que, par exemple, la politique agricole commune soit évolue au regard de ça. En fait, ça pose la question de quels sont les coûts et les biens communs qui sont pris en charge par les politiques publiques. Si vous imaginez que vous avez un coût engendré sur l'environnement par les pratiques et que ce coût-là, vous devez le compenser, vous avez intérêt à le compenser aujourd'hui par une aide à l'agriculteur plutôt que de devoir payer le demain. Exactement la même chose sur la problématique de la santé. Il y a des tas de réflexions. Il y a un plan Ecophyto qui vient d'être lancé sur les coûts des pesticides, les coûts cachés des pesticides, encore l'impact sur la santé. Est-ce qu'on est capable d'internaliser ça? Et ça pose la question, et c'est la première fois qu'on est dans cette situation-là, où on doit prendre à la fois en compte ce qui se passe aujourd'hui et la responsabilité qu'on a pour demain. On est dans cette tension importante entre aujourd'hui et demain, ce que disait Joël Labbé tout à l'heure.
Joël Labbé, justement.
Oui. Donc vous avez cité Ecofito. Certes, il y a eu des progrès sur ces 3000 fermes, mais maintenant, à côté de ça, il y a ces milliers de fermes qui travaillent en bio, qui pratiquent la culture bio et qui, eux, font sans. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez évoqué...
Ils font avec du cuivre, quand même.
Enfin, oui, non. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines petites choses à dire, partout, mais c'est sans commune mesure, l'impact sur la biodiversité. Maintenant, à juste titre, vous évoquez les paiements pour les services, au-delà du produit agricole, les paiements pour les services environnementaux rendus. On a travaillé longuement avec la plateforme pour une autre PAC. Justement, comment faire en sorte que les aides européennes soient redirigées vers l'agriculture vertueuse, celle qui préserve la qualité de l'eau, celle qui préserve la santé humaine, celle qui préserve la biodiversité, les équilibres environnementaux. Il n'y a pas photo entre les deux. Et à un moment, si on veut faire avancer, et dans l'intérêt de l'ensemble du monde agricole, eh bien, c'est de cibler les aides. Et lorsque l'on veut faire la transition vers l'agriculture biologique, il y a un pas de temps qui n'est pas long, mais pour lequel il faut aider. Il est absolument nécessaire d'aider. Eh bien, défendre tout ça, on a mille et une misères parce qu'il y a du lobbying de continuer
les pratiques agricoles
telles qu'elles sont.
Ça, c'est politique pour le coup,
Joël Labbé.
Merci beaucoup à vous trois. On est arrivé au bout du chrono et je sens que ce débat pourrait durer encore des heures. Évidemment, mais je vous remercie. Je suis ravi d'avoir pu mettre autour de la table agriculteur politique et scientifique Christian Huyck, directeur scientifique agriculture de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Thierry Coué, vice-président de la FNSEA et président de la commission environnement de ce syndicat, le premier syndicat agricole, et Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Merci à tous les trois. Europe 1.